Midi 30, 14h.
La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1. Ma mission, vous la connaissez, chaque jour, vous montrer que oui, la France bouge et que vous êtes bien souvent les acteurs de ce changement. Aujourd'hui, c'est au rayon du soleil qu'on va s'intéresser comment se protéger avec l'arrivée de l'été. Vous allez voir que des Français ont inventé de tout nouveaux produits pour nous aider à éviter les mauvaises expositions. Elle existe depuis 1921, a même démarré dans la tête de son inventeur bien avant. C'est un mousse breton, Albert Ménès, et l'entreprise qui va bien, merci. Et puis, réparer plutôt que jeter, c'est plus qu'une tendance aujourd'hui. Et des associations vous apprennent à faire les bons gestes, une vraie solution qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui grâce à PicPic. C'est ça la France qui bouge, et c'est sur Europe 1.
Europe 1.
39-21, on vous attend comme chaque jour. Décrochez votre téléphone. Êtes-vous plutôt du genre à lézarder au soleil ou à passer à l'ombre dès que l'été approche, Anissa?
Et vous êtes déjà peut-être en train de préparer vos valises, vos trousses de toilette avec votre crème solaire dedans. Vous ne savez pas quoi choisir. Vous avez beaucoup de questions à poser aux invités de Raphaël Duchemin. C'est maintenant qu'il faut composer le 39-21, le standard, 50 centimes la minute. On lit également toutes vos réactions et vos questions sur Twitter avec le hashtag Europe 1, Raphaël.
Et oui, car avec les premières chaleurs, nous sommes nombreux à vouloir prendre un café en terrasse ou à nous exposer sans penser à chaque fois à épargner notre peau. Pour accueillir nos invités à mes côtés, elle est là comme chaque jour, c'est Elisabeth Assayag, bonjour.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Et notre coach aujourd'hui, c'est Frédéric Mazella, fondateur de Blablacar, entre autres. Bonjour Frédéric.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Quand on va à la montagne ou à la plage en plein été, on sait qu'on risque de prendre des coups de soleil. Mais ce que l'on sait moins, c'est qu'il faut se protéger toute l'année en fonction évidemment de son épiderme, parce que les phototypes sont différents de l'un à l'autre. Et notre capital s'amenuise au fur et à mesure qu'on l'expose. Bonjour Maxime Dupont.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous
Merci
êtes l'un des fondateurs de Sonicare. Alors, vous avez mis en place une borne qui distribue des billes de crème solaire. Elle est lancée depuis 2018. Je l'ai là, cette bille à la main. Alors, la mienne est verte. Vous allez nous expliquer ce qu'il y a dedans. Mais d'abord, racontez-moi comment vous vient l'idée de Sonicare, Sonic comme soleil et Care comme protection.
Exactement. En fait, Sonicare, c'est deux ingés à la base qui ont envie de mettre au service de causes qui leur tiennent à cœur leurs compétences techniques. C'est-à-dire que nous, on est capable de faire des bornes, on sait faire. Et du coup, il y a des thématiques autour de la crème solaire qui sont très importantes pour nous, la problématique environnementale, la problématique sanitaire et la problématique sociétale. Et autour de tout ça, on se dit, tiens, on peut peut-être faire quelque chose, nous, pour résoudre ce sujet.
Donc, vous inventez une borne et à l'intérieur, vous décidez de mettre des billes de crème solaire. C'est-à-dire, des billes, pourquoi et comment marche la borne?
Exactement. En fait, nous, l'objectif, c'est de faire de la prévention directement sur les lieux d'exposition. Donc, on conçoit des bornes qui vont s'implanter là où il y a le besoin, c'est-à-dire sur les pistes de ski, sur les plages, sur les festivals, directement sur les lieux d'exposition. Et du coup, cette borne a fait de l'information. Elle va vous indiquer quel est l'indice de dangerosité du rayonnement UV. Quand la borne est rouge, ça veut dire protégez-vous. Quand la borne est verte, ça veut dire vous pouvez y aller tranquille. Un peu comme un drapeau au bord de la plage. Et ensuite, on va vous conseiller l'indice de crème solaire dont vous avez besoin pour que vous puissiez vous approprier le produit. Aujourd'hui, il y a une... Ouais, exactement.
Donc j'appuie sur la borne. Elle va me dire indice très élevé, donc il faut vous protéger. J'appuie sur un autre bouton et je vais réceptionner cette petite bille à l'intérieur de laquelle se trouve de la crème, c'est ça, voilà. Et cette crème, elle est en fonction de ma peau.
Exactement, c'est ça l'objectif, c'est personnaliser vraiment la protection solaire en fonction de votre besoin. Et donc là, vous avez une bille verte entre les mains, j'ai aussi une bille jaune juste ici.
Ouais.
Les indices sont différents parce que nos peaux seront peut-être différentes. Et effectivement,
donc là,
exactement, il faut en profiter pour se protéger, surtout cet été. Et donc voilà, en fait, c'est ça qu'on fait. On distribue des billes.
Ouais. Sous quels critères vous décidez qu'on aura une bille verte ou une bille jaune? Comment vous décidez
que
notre
peau... d'entrer les informations dans la borne.
Et justement, vous posez quelles questions alors pour savoir ça?
Exactement. En fait, l'idée, il faut mesurer à la fois, en fait, le choix de l'indice, il va dépendre et de votre type de peau.
Ouais.
Mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il dépend aussi du lieu d'exposition, c'est-à-dire qu'il dépend aussi du rayonnement UV.
D'accord.
Et donc pour ça, avec la borne, on capte l'information du rayonnement UV là où vous êtes.
Ouais.
Et on vous dit en fonction de votre peau. Donc pour l'instant, c'est du déclaratif et on travaille à faire du traitement de l'image pour analyser.
Et vous demandez quoi? Peau mate, peau claire, peau.
Les critères pour définir le type de phototype, c'est la couleur de cheveux, la couleur des yeux, la couleur de la
D'accord.
peau, et ensuite si vous avez eu des grains de beauté.
C'est important, Elisabeth, hein, parce que se protéger du soleil, c'est capital même, parce qu'on ne se rend pas compte, mais il y a d'énormes dangers.
Il y a d'énormes dangers, hein, les chiffres sont catastrophiques hein, quand on s'y penche un petit peu. Les cancers de la peau, hein, le soleil provoque des cancers de la peau, ils détiennent le triste record de la progression la plus importante depuis 20 ans. Près de 60 000 nouveaux cas par an en France, hein, ce sont des chiffres de la Ligue nationale contre le cancer. Dans le détail, hein, 10 000 mélanomes, c'est le cancer cutané le plus grave, donc il faut se protéger du soleil toute l'année.
Vous avez travaillé sur la borne, sur la bille. Qui met la crème à l'intérieur? Ce sont des fabricants français qui travaillent avec vous?
Et donc pour l'instant, on a choisi de développer notre propre crème. L'idée, c'est vraiment de mesurer l'impact environnemental qu'on peut avoir de la même manière et l'impact sanitaire. C'est-à-dire que notre crème est dépourvue de nanoparticules, elle est dépourvue d'allergènes et c'est des filtres minéraux. L'idée, c'est d'avoir vraiment ces impacts les plus faibles possibles, et sur l'homme et sur la planète.
Combien de sites équipés aujourd'hui?
Donc aujourd'hui, on a 62 jours d'implantation sur l'été. On fait la tournée de la prévention, en fait. On fait en grande partie des festivals de musique pour vraiment venir protéger les festivaliers. On était le week-end dernier à Wheel of Green, il y a deux semaines, à Wheel of Green. Et on a distribué 500 billes de crème solaire.
Et c'est gratuit. C'est gratuit pour les utilisateurs. C'est le festival hein, qui paye.
Exactement. C'est soit le festival, soit les marques qui vont venir, plutôt que d'avoir un vélo smoothie sur leur stand, ils vont avoir une machine qui va faire de la prévention et de la santé publique.
Qu'en pense notre coach ?
Alors, je trouve ça joli, la bille. Il y a une vraie utilité à la bille. Enfin, c'est-à-dire, c'est marketing ou c'est pour qu'on la reconnaisse ou...
L'intérêt de la bille, il est simple, c'est qu'aujourd'hui, les gens sont conscients des risques UV, mais il y a des freins encore à l'utilisation de la protection solaire. Qu'est-ce qui vous freine? C'est qu'aujourd'hui, la protection solaire, c'est quelque chose de rébarbatif. Vous préférez bronzer plutôt que vous protéger. Et moi, je veux rendre l'usage de la crème solaire d'accord. le plus ludique possible.
Marrant. Hein. Alors, donc, c'est un accessoire.
Et c'est un accessoire qui est nécessaire aujourd'hui pour le rendre, pour favoriser l'appropriation du produit. Et que ce soit efficace.
Et puis c'est pratique, il y a un petit trou, vous appuyez simplement dessus et la crème sort.
Après ça roule.
Oui, aussi.
Ouais. Et après on en fait quoi, c'est ça de la bille?
Qu'est-ce qu'on fait de la bille? Dans quelle matière elle est construite? Et puis est-ce que vous avez quelques chiffres justement, puisqu'on parle de santé et d'environnement, est-ce que vous connaissez les chiffres ou les grandeurs correspondant à la pollution liée à la crème solaire qui du coup finit dans les océans?
Carrément. Du coup, en fait, nous, notre bille est en gélatine végétale, biodégradable. L'idée, c'est qu'on la récupère, en fait, juste à côté de la borne, vu que c'est de la monodose, les gens l'utilisent, se protègent, et ensuite la jettent, et nous, on la composte, en fait, juste après.
Ouais.
Donc, ce qui fait qu'on retraite aussi...
Pour en faire d'autres.
Exactement. On la retraite, enfin, pas pour en faire d'autres. Le compost, en fait, c'est plus une manière de traiter le déchet. Et donc ça, c'est pour l'enveloppe de la bille. Et donc, effectivement, oui, il y a 24 000 tonnes de crème solaire qui sont déversées en Méditerranée chaque année.
Aïe, aïe.
C'est quelque chose de destructeur pour les coraux, pour la faune marine, et aussi même pour l'eau, de manière globale. Et donc, il y a un vrai enjeu aussi, oui, effectivement.
Justement, Elisabeth, puisqu'on parle d'océan, puisqu'on parle de la mer Méditerranée, il y a des crèmes solaires qui sont fabriquées chez nous, en France, et qui respectent hein, la mer.
Oui, en tout cas, ils font le maximum. Alors, j'en ai relevé quelques-unes. Vous avez la marque Mimitica. Ça fait 3 ans qu'elle existe. C'est une marque qui a conçu une gamme complète de produits solaires sans composants néfastes. C'est ce qu'ils disent, comme par exemple le fameux oxybenzone. Les ateliers sont dans le sud-ouest de la France. Les filtres UV créés sont à 90% d'ingrédients d'origine végétale, comme avec de l'aloe vera, de l'algue bretonne qui stimule la production de mélanine, et avec des effluves, avec des odeurs de fleurs de figuier, de vanille ou d'amande. Vous avez l'un des leaders, la marque Aven. Ça fait plusieurs années que cette marque est dans une démarche environnementale. La marque a éliminé les silicones, les particules non biodégradables. Vous en avez une autre qui s'appelle, ce sont les ateliers, le laboratoire Biarritz, les crèmes solaires Biarritz. Ce sont des crèmes solaires bio françaises qui existent depuis 2011, ou encore une toute jeune marque, NU, ce sont deux jeunes Strasbourgeois qui ont lancé il y a quelques mois une collecte en ligne pour financer leur projet de production d'une crème solaire écologique. C'est un succès total. Hein. La collecte a dépassé de 900% son objectif de départ. Elle est à indice élevé. Elle a été conçue par des amateurs de plongée qui étaient, à force de faire de la plongée, effrayés par ce que vous venez de décrire, hein, par ce que l'on pouvait trouver par la pollution des milieux marins.
On reste ensemble et on continue à se protéger du soleil aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h09.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Et pourquoi ne pas se faire aider pour traquer les UV? C'est le principe du capteur portable qu'a mis en place La Roche-Posay. A tout de suite.
Europe 1, Europe 1.
La France bouge sur Europe 1 et on prépare déjà l'été. Raphaël Duchemin, grâce à vos invités, nous découvrons les innovations françaises pour se protéger du soleil. Elles sont nombreuses, ces innovations. Et si vous avez des questions, vous aussi, à poser, c'est maintenant que ça se passe. 39-21, le standard d'Europe 1, 50 centimes la minute. Et sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
On a tous des téléphones dans la poche, y compris à la plage. Pas dans la poche, mais dans le sac de plage. Alors pourquoi ne pas avoir un système, par exemple, qui nous indiquerait notre niveau d'exposition aux UV ? C'est ce que vient de lancer La Roche-Posay. Bonjour Laetitia Toupé.
Oui, tout à fait.
Bonjour.
Donc nous,
bonjour. Merci d'être avec nous. Je vais dire qui vous êtes d'abord. Ne commencez pas à parler. Je vais vous poser des questions. Vous allez voir, ça va bien se passer. Vous êtes la directrice monde de La Roche-Posay et vous avez créé MyScreen Track UV. Je crois que prendre soin de la peau, c'est quand même une des missions que s'est fixée La Roche-Posay. Mais racontez-moi comment vient l'idée du capteur.
Alors, l'idée du capteur. Nous, notre mission, c'est en permanence, on travaille avec des dermatologues pour connaître les besoins des patients, c'est de faire de l'innovation qui peut changer la vie des gens et qui peut protéger, prendre soin de la peau. Et il y a un enjeu capital, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a de plus en plus de cancers de la peau. Donc, comment prévenir le cancer de la peau ? Donc, d'un côté, on a nos crèmes, on essaie de faire les meilleures textures pour que les gens soient motivés à les appliquer. Mais il y a un énorme enjeu d'éducation sur les UV. Donc, les dermatologues nous disent que, et on a des études qui montrent qu'il y a seulement 15% des gens qui se protègent toute l'année. Seulement 70% des gens qui se protègent...
Qui disent se protéger.
Tout à fait, parce qu'en déclaratif, ça se trouve, ils n'osent pas le dire, se protègent pendant l'été. Donc, comment faire en sorte d'éduquer les gens ? Et c'est là, du coup, on travaille avec un incubateur chez L'Oréal, on a travaillé des startups pour essayer de voir, justement, est-ce qu'il pourrait y avoir des capteurs qui soient, donc maintenant on appelle ça la health tech, qui puissent renseigner les gens sur le niveau d'UV et puisse motiver à justement se protéger.
Donc, alors, le capteur, vous l'avez avec vous, il est épinglé à votre veste. Ce petit capteur, je vais lui donner tout un tas d'informations sur moi, ma peau.
Alors, c'est très simple. Vous mettez le capteur, hop, vous screenez l'app. Et là, vous renseignez juste deux informations, parce que si c'est trop compliqué, personne ne le fait. Le niveau de la peau et le genre de problème de peau qu'on peut avoir. Si on a tendance à avoir des irritations, des allergies, de l'acné, de l'eczéma ou des grains de beauté. Et après, du coup, ça va vous dire... en fonction de votre niveau d'exposition.
Quel est le phototype ?
Ça va plutôt, ça dit concrètement, vous aujourd'hui, vous avez eu tel niveau d'UV, aussi d'autres facteurs environnementaux qui peuvent accroître les méfaits du soleil, qui sont la pollution, le pollen, ou même le degré de sécheresse. Et ça va vous dire, concrètement aujourd'hui, vous devriez faire telle et telle chose. Par exemple, quelqu'un qui a de l'acné, lave-toi bien. Quelqu'un qui a de l'eczéma, on va lui dire aussi, fais attention, tu vas avoir peut-être une crise, donc prends pas de bain. Et également, quels sont les produits ? Donc, soit des produits solaires en disant, là, il y a beaucoup d'UV, donc mets plutôt, non, fais que des SPF 50. Hein. Donc, chez moi, je posais, parce que, mais appliquant tant de fois par jour. C'est très concret, très pragmatique sur des avis en dehors de la cosmétique, des produits et des routines. Tout ça créé avec des dermatologues.
Pour créer des habitudes, justement.
Voilà, exactement, des réflexes. Comment éduquer à des bons réflexes solaires ? C'est exactement ça.
Ça a été lancé d'abord aux États-Unis, fin 2018. Arrive en France depuis le mois de juin.
Exactement.
Quels sont les premiers retours, justement, que vous avez eus ? Comment est-ce que c'est accepté ?
Alors, on avait fait, après les États-Unis, on a fait une étude avec des dermatologues pour voir est-ce que ça change. Donc, 70% des gens disent que ça change leur comportement, qu'ils s'occupent mieux de leur peau. Donc, déjà, ça, c'est bien. Ça les éduque à avoir des meilleurs réflexes. Donc ça, c'était ce qu'on voulait quantifier. Il y a un côté assez ludique quand même et sympa parce que tout le monde adore avoir son smartphone. Donc ça, c'est aussi un moteur à ce qu'on appelle l'observance, donc l'application. Et puis alors à côté, on a eu pas mal d'articles sur et des prix. On a eu un prix qui est très connu aux États-Unis qui s'appelle Fast Company, qui est Life Changing Ideas. Donc, comment changer la vie des gens, ce qui est le plus important, au-delà des prix sur la tech, parce que la tech pour la tech, c'est super, mais nous, chez La Roche-Posay, l'innovation...
Il faut que ça ait une utilité dans
exactement.
Le quotidien des gens.
Voilà, changer la vie des gens dans une démarche bienveillante, voilà.
Qu'en dit notre coach qui a l'habitude de changer la vie des gens, lui, avec Blablacar ?
Oui, alors pas de la même manière, mais moi, j'ai des questions pour nous tous, c'est-à-dire que si on ne peut pas utiliser directement... votre technologie tout de suite. Qu'est-ce que vous avez comme conseil très basique peut-être pour nous tous, c'est-à-dire le temps d'exposition maximum ou conseillé par jour, des choses un petit peu pratiques, ou les choses contre-intuitives. Alors, au-delà du fait qu'on dit il faut pas aller trop au soleil, ça veut dire quoi concrètement?
Comme on a tous envie d'aller au soleil, surtout après quand même un hiver comme celui qu'on a eu, le meilleur conseil, et merci de me poser la question, je pense que il faut se mettre de la crème solaire dès qu'on sent qu'il y a des rayons qui vont apparaître avant de partir de chez soi. Parce que c'est vrai qu'une fois...
C'est le même réflexe que la crème de jour du matin.
Exactement. Le jour où on se brossera les dents, on mettra de la crème solaire comme on se brosse les dents. Je pense qu'on aura gagné, surtout pour des enfants qui sont dehors, ou des sportifs, toutes les personnes qui profitent de la nature, qui sont dehors, même... Parce que le pire, c'est ceux qui sont... Sur la plage, en général, on se protège. Mais en exposition non volontaire, on a beaucoup plus de cas, nous remontent les médecins sur...
Et donc, y compris, évidemment, les mains, le visage, tout. Enfin, c'est-à-dire qu'on a aussi cette perception que peut-être quand même nos mains et nos visages sont plus à même de prendre de l'exposition que le reste du corps. Donc
et beaucoup, je dirais aussi, les oreilles. On prend beaucoup de coups de soleil sur les oreilles, sur le nez. Pour les personnes qui, malheureusement, perdent un peu leurs cheveux aussi sur le crâne. C'est des zones à exposer.
Et puis ça n'est pas parce que le soleil n'est pas visible à l'œil nu que le soleil ne passe pas. Donc, en principe, il faut mettre une crème de protection au quotidien. Pour éviter les UV.
Et il y a des UV, parce que ce capteur va vous indiquer le niveau d'UVB et d'UVA, donc c'est assez complexe, mais les UVA, ils sont présents toute l'année, ils peuvent même transpercer certaines vitres, et c'est ceux qui créent vraiment des dommages irréversibles. Donc, on est tous engagés, là, tous les invités, sur le même combat, qui est comment éduquer et prévenir le cancer cutané. Donc, c'est là où cette innovation, elle doit aider à adopter des meilleurs réflexes. Et après, il y a aussi bien évidemment le dermatologue. Notre conseil, c'est d'aller faire des rendez-vous avec le dermatologue. On est engagé sur de la prévention en termes de marque. La Roche-Posay, c'est une marque innovante, mais également bienveillante, qui fait des dépistages aussi, qui aide à pousser les gens à aller faire des dépistages chez le médecin.
On reste ensemble et on continue à parler protection du soleil aujourd'hui.
Il est 13h19.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Protéger de la peau, c'est bien. Si quand on est au soleil, on a tous le réflexe lunettes, on pense moins au chapeau. Et pourtant, c'est tout aussi utile. À tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 avec de nombreux acteurs qui aussi se bougent. Et aujourd'hui, on s'intéresse aux innovations françaises pour se protéger du soleil. C'est la saison, hein. On prépare les valises déjà pour les plus chanceux qui partent bientôt. Donc ces innovations françaises pour se protéger du soleil, si elles vous intriguent, n'hésitez pas à poser vos questions dès maintenant. Il y a déjà des questions sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Vous pouvez également nous joindre au standard, le 3921, Raphaël.
Aujourd'hui, tout est connecté. Vous allez voir que votre couvre-chef peut l'être aussi. Bonjour Marie Castagnier.
Oui, bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la cofondatrice de Soway. C'est votre mère qui au départ a créé l'entreprise en 2011 et vous avez rejoint l'aventure l'année dernière. Vos chapeaux sont particuliers parce qu'ils nous permettent de nous protéger réellement du soleil. Alors j'insiste sur le réellement et on va y venir, mais d'abord dites-moi, pourquoi est-ce que votre mère a eu envie de se lancer dans cette entreprise-là?
Eh bien, c'est au travers de rencontres avec des dermatologues et autres spécialistes de la peau qu'elle s'est rendue compte, de manière assez évidente d'ailleurs, qu'il manquait vraiment quelque chose sur le marché de la protection solaire. C'était un chapeau qui soit à la fois très protecteur, mais aussi très confortable. En effet, il existe des chapeaux très protecteurs, mais ils sont souvent très chauds et très lourds, parce que pour les rendre protecteurs, il faut que le tissage soit très serré, et du coup, le chapeau, on l'enlève.
Parce que l'air ne passe pas, c'est
absolument.
Ça ? Absolument. Donc, elle se lance dans cette entreprise. On est en 2011. Vous, oui. Vous la rejoignez. Vous êtes complémentaire, si j'ose dire, parce que vous avez la partie commerciale à votre actif.
Oui, exactement. En fait, depuis 2011, il s'est passé beaucoup de choses. En 2014, on est devenu partenaire des congrès de dermatologie en France. Et c'est vrai qu'on conçoit désormais les chapeaux avec les nombreux conseils de dermatologues. Alors, ils nous aident sur la dimension des bords et des visières qui doivent être de minimum 7 cm pour bien protéger le visage et le cou. Ils nous disent aussi de faire des visières doublées d'un tissu foncé pour limiter les effets de la réverbération dans les yeux. Voilà, tout un tas de petits conseils qui nous sont donnés par les dermatologues et qui nous aident à concevoir des chapeaux ultra protecteur et très confortable.
Alors moi, je ne le savais pas, vous faites des chapeaux, des casquettes anti-UV, anti-infrarouge pour les bébés, les enfants, les adultes, oui. Mais chaque tissu et une barrière différente, en fait.
Absolument.
Parce que le coton, c'est comme si je mettais une crème avec un faible indice de protection, un indice 15.
Oui, c'est une très bonne question et il y a beaucoup de gens qui me la posent. C'est important de savoir que les textiles ont des indices de protection à l'image des crèmes solaires. Un coton, tout à fait, l'indice de protection, c'est 15 en moyenne. Nous, nos produits, leur indice de protection est de 50 plus, donc à l'image d'un écran total en version crème solaire.
Ça veut dire que vous allez chercher des tissus bien particuliers qui sont suffisamment serrés, dont les mailles sont resserrées pour pouvoir nous protéger.
En fait, on a travaillé une matière qui était déjà existante, qui s'appelle le polyéthylène. Et cette matière, on l'a mise au point techniquement afin de la rendre ultra protectrice, donc de lui donner un indice de protection 50 plus, tout en lui laissant ses qualités de grande légèreté. Donc, en fait, on se retrouve avec un chapeau qui est le seul qui concilie les trois qualités suivantes. Il est anti-UV avec un indice de protection 50+, certifié avec la norme de protection solaire australienne qui est la plus sévère. Il est anti-infrarouge, ça c'est très important, c'est ce qui nous différencie de nos concurrents aujourd'hui. C'est-à-dire que les infrarouges, c'est ce qu'on ressent quand on a une sensation de chaleur. Là, il va repousser la chaleur du soleil, donc il va rester frais. Et il est poids plume, donc il est très léger.
Oui, c'est vrai, il est très léger. On les a avec nous ici sur Europe1.fr. Il y a deux matières. Hein. Il y a vraiment la matière sur le haut de la tête et puis la visière qui est différente.
La visière qui est plus solide, un petit peu plus rigide. Sachant qu'on a aussi travaillé la practicité des chapeaux. Les casquettes, par exemple, ont des visières qui sont relativement souples pour des casquettes qu'on peut mettre dans la poche, qu'on peut plier. Nos chapeaux sont pliables, ils se roulent dans les valises. Ils se lavent également en machine à basse température. Ils ont tous des liens anti-vent pour éviter que le chapeau ne s'envole lorsqu'on fait du vélo ou du tennis, par exemple.
Tout est réfléchi dans les moindres détails. Oui. Que dit notre coach de Soway et ses chapeaux ?
Alors, moi, je crois que je viens de découvrir quelque chose. C'est que même en mettant un chapeau ou un t-shirt ou je ne sais quoi, on n'est pas protégé. Alors, parce que vous dites que c'est un indice de 15. Donc, c'est-à-dire que quand je mets mon t-shirt et que je vais au soleil, en fait, je prends les UV en dessous et je peux bronzer sous le t-shirt.
Oui, alors c'est une question que beaucoup de gens se posent, effectivement. Qu'est-ce que ça veut dire, indice de protection 15? Ça veut dire qu'avec une crème solaire ou un t-shirt, indice de protection 15, on va brûler 15 fois moins vite que si on n'avait rien. Nous, on brûlera 50 fois moins vite que si on n'avait rien. En fait, nous, la particularité de nos produits, c'est vraiment le côté anti-infrarouge. Si vous avez un chapeau en coton sur la tête, vous aurez chaud. Là, on va vous proposer quelque chose de plus protecteur et de plus confortable parce qu'il ne chauffera pas au soleil.
Elisabeth, vous avez trouvé d'autres vêtements hein, anti-UV,
oui.
Justement. On parlait des chapeaux, mais il y a les vêtements
chapeaux,
également.
Il y a les maillots de bain, les ultraviolettes.
Oui, je crois que vous les connaissez d'ailleurs.
Absolument, on est partenaires, on travaille ensemble.
Elles existent depuis 2012. Ce sont des maillots de bain destinés aux femmes et aux enfants âgés de 1 et 2 ans. Là aussi, chaque maillot anti-UV est conçu avec une maille tissée très resserrée pour que les rayons du soleil ne puissent pas passer au travers. Protection 50, illimitée dans le temps. Il y a aussi les chapeaux anti-UV pour enfants de la marque Qui est là, marque française qui existe aussi depuis 9 ans, qui est née à Pornic. Et on trouve aussi hein, chez Decathlon des chapeaux anti-UV avec un indice de protection 40. Alors, c'est peut-être pas aussi léger que les vôtres. Mais ça existe. Pour vous, peut-être que ça chauffe au soleil. En tout cas, on les cite. Il y a aussi maillot parasol, sans substance chimique ajoutée, haute protection solaire. Ce sont des maillots de bain confectionnés avec des tissus notamment français, italien et espagnol. Donc, il y a beaucoup de marques qui se sont développées sur ce créneau de vêtements anti-UV et protecteurs.
On reste ensemble et on attend vos questions.
Il est 13h27.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
39-21 et Twitter, hashtag Europe 1, c'est la France qui bouge, on se protège du soleil aujourd'hui.
On prépare l'été sur Europe 1, la France bouge et il y a de nombreux acteurs qui innovent, des innovations françaises bien sûr, pour se protéger du soleil. On vient de les découvrir ces innovations, Raphaël Duchemin. Maintenant, vos invités vont répondre aux questions des auditeurs au 39-21 et sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Raphaël.
Nous sommes avec Maxime Dupont, cofondateur de Sonicare, Laetitia Toupé, directrice monde de La Roche-Posay, Marie Castagnier, cofondatrice de Soway. Notre coach aujourd'hui, c'est Frédéric Mazella. Évidemment, Elisabeth Assayag est à mes côtés tout au long de cette émission. On a des messages, Anissa.
Oui, il y a des messages. Il y a d'abord un message de Marc qui s'adresse à tous les trois. Il vous dit, pour chacune de vos solutions, est-ce que vous prenez en compte les personnes allergiques au soleil ?
Ah, oui. Laetitia Toupé.
Oui, tout à fait. C'est une très bonne question. Nous, on a l'habitude, en plus, chez La Roche-Posay, de travailler avec des personnes qui sont allergiques au soleil. Et justement, ce capteur va pouvoir vous donner les meilleurs conseils qu'on a créés avec des dermatologues en fonction des réactions de peau que vous pouvez avoir et ça tient compte de ce paramètre. Donc une peau allergique, elle va réagir de manière différente s'il y a, au niveau du UV, également aux autres facteurs extérieurs, comme je disais tout à l'heure, le pollen, la pollution, pour essayer d'éduquer à la protection solaire l'été, mais également toute l'année.
Oui, mais une personne allergique,
Elisabeth,
même avec une protection 50, c'est l'éviction la meilleure solution. C'est pas, il n'y a rien d'autre.
Alors, l'éviction est toujours ce qu'on peut recommander. Néanmoins, on sait que l'exposition solaire, la vitamine D, c'est aussi bon. Et on sait que les gens vont au soleil. Ils ont besoin de ça aussi. Donc, on a des protections derrière qu'on recommande, des protections à la roche-posée qui sont développées pour être respectueuses des peaux allergiques.
Je voudrais qu'on revienne deux secondes sur le capteur. On ne peut pas le trouver en vous écrivant, en se mettant sur le site de la roche-posée. Il faut aller chez Apple. C'est aussi une démarche très particulière que vous avez choisi de faire avec Apple.
Tout à fait, on a choisi d'accorder l'exclusivité à la vente de ce capteur chez Apple. Pour la bonne raison, c'est qu'on voulait pouvoir faire en sorte d'éduquer le maximum de personnes et qu'il y a certaines personnes pour ce genre de capteur qui vont plutôt chez Apple que chez La Roche-Posay. Donc c'était de donner une chance de notoriété à ce capteur.
Mais c'est compatible avec, tous les téléphones. On a peut-être d'autres questions, Anissa, sur le hashtag Europe 1.
Oui, effectivement. Alors, on a des questions sur le hashtag Europe 1. On a des questions qui nous arrivent par mail aussi. Alors, on a une question de Sophie qui dit « Avec le nombre effarant que vous avez cité de mélanome, pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas que de l'indice 50 pour nous protéger ?»
Alors, Maxime.
Oui, et typiquement, en fait, l'objectif, c'est aussi de participer à l'appropriation du produit crème solaire. Nous, effectivement, les dermatos nous disent « C'est mieux si on met de l'indice 50 à tout le monde. » Mais dans les focus groups, dans les études qui ont été menées sur les comportements effectifs des gens au quotidien, il se trouve que ça peut être potentiellement un frein dans l'utilisation. C'est pour ça que nous, on conseille l'indice 50 dans tous les cas, mais après, on favorise l'appropriation du produit en disant...
Les gens ont peur de ne pas bronzer,
personnalisé.
C'est ça.
C'est exactement ça. Et donc, on personnalise la protection solaire au maximum.
Donc, il y a aussi peut-être une dimension éducative à faire, y compris à l'école. Qui sait, demain, ce serait important de le faire comme on le fait, par exemple, pour les dents. Question pour vous, avec les chapeaux Sowe, Marie Castagnier. Vous avez eu du mal à lancer ces produits. Ça a été compliqué.
Oui.
Aujourd'hui, ça y est, c'est sur la bonne voie. Vous avez surtout un ambassadeur qui fait un gros travail, qui connaît bien le soleil, qui est Loïc Perron.
Oui, tout à fait. Depuis l'année dernière, au moment de la course de la route du Rhum, en novembre 2018, le navigateur Loïc Perron s'est rapproché... Enfin non, c'est pas vrai. On s'est rapproché de lui.
vous êtes rapproché.
Allez, soyons humbles. On s'est rapproché de lui afin de lui faire tester nos chapeaux. Donc on lui a envoyé des chapeaux et qu'il a utilisé lors d'une régate à Tahiti. Il s'est dit, c'est génial. Donc il nous a contactés et il a décidé de s'associer avec nous et de créer deux chapeaux qui répondent particulièrement aux normes, enfin aux exigences des activités de plein air en termes de protection solaire et de confort. Donc on a deux modèles qui sont spéciaux pour les activités de plein air, ultra techniques. Il y a plein de précisions sur le site internet, je ne vais pas vous embêter avec ça maintenant. Mais c'est vrai qu'il a été d'une grande aide et on le voit bien depuis qu'on est associé avec lui. Les ventes ont un petit peu augmenté quand même.
Eh bien, c'est ce qu'on espère pour vous et aussi pour le lancement de vos innovations à tous les trois. Merci d'être venu nous parler protection du soleil aujourd'hui.
Merci
sur Europe 1.
Il est 13h34.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Elle existe depuis les années 20, c'est le numéro 2 des épices en France. Albert Ménès, c'est l'entreprise qui va bien. Merci, à tout de suite.
Europe 1.
La France bouge sur Europe 1 avec Raphaël Duchemin et ses invités. Chaque jour, Raphaël, vous nous proposez de découvrir l'entreprise qui va bien, merci, et celle d'aujourd'hui, Ravine aux Papilles.
Oui, cette entreprise, vous la croisez notamment dans les rayons des épiceries quand vous faites vos courses. C'est Albert Ménès. Bonjour Bettina Orbach.
Bonjour Emmanuel.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice générale déléguée d'Albert Ménès, qui est le fondateur en 1921 de cette marque. Très bretonne d'abord, puisque lui était mousse, il a beaucoup, beaucoup voyagé. Il a eu envie de faire découvrir tout simplement les spécialités du bout du monde aux Bretons et la Bretagne à l'autre bout de la terre. Si on résume, c'est un peu ça.
C'est un peu ça, en 100 ans. Donc effectivement, Albert Ménès, c'était un jeune mousse breton de Landerneau. Et en parcourant le monde lors de son premier métier dans la marine marchande, il a découvert toute une série de spécialités culinaires de l'autre bout du monde. Et enfin gourmet, il s'est dit que c'était des produits qui pouvaient intéresser les Français. Et à son retour dans sa Bretagne, il s'est mis à aller les présenter à différents distributeurs pour les faire connaître sur le marché français.
C'est lui, par exemple, qui nous fait découvrir les fameux Cadbury ou les céréales Kellogg's.
Oui, tout à fait. En son temps, Et puis de même qu'il a ramené aussi et fait découvrir un certain nombre d'épices, comme les baies roses, qu'il a introduit sur le marché français.
Et c'est toujours d'ailleurs depuis le même fournisseur, hein, depuis le point de départ, depuis le démarrage de l'aventure.
Oui, alors en fait le mode de fonctionnement c'est qu'on a deux ateliers sur le marché français, donc on fabrique à peu près 60 à 70% de nos produits, et puis le reste, tout le travail de l'entreprise, ça a été d'aller chercher des artisans talentueux, qui fabriquent des produits d'exception avec des recettes originales ou des ingrédients particuliers qu'on fasse découvrir l'ensemble des Français.
Alors lui a commencé l'aventure, il a distribué les produits d'ailleurs, il s'aperçoit effectivement que même en France, hein, parfois on ne connaît pas par exemple les palais bretons en Provence, donc il commence à démarcher aussi le marché français et puis il va passer la main et c'est une nouvelle page de l'entreprise qui s'écrit avec Thierry Hervé, c'est lui qui va installer la marque qu'on connaît telle qu'on la voit aujourd'hui, qui va créer notamment les fameux meubles à épices, entre autres.
Tout à fait. Alors, ce qui s'est passé, c'est que dans les années 70 et 80, la distribution française a été totalement bouleversée par l'arrivée de la grande distribution et la réduction du commerce de proximité. Et à cette époque, l'entreprise a été visionnaire puisqu'elle s'est dit qu'il y avait une place à jouer dans ce nouvel univers, même pour des produits d'épicerie fine. Et que finalement, elle avait aussi une mission, quelque part, de préserver le savoir-faire gastronomique français en créant une petite boutique d'épicerie fine dans la grande distribution. Et c'est le modèle que l'entreprise a toujours aujourd'hui et qui est effectivement très unique et qui était très visionnaire à l'époque.
En 2016, l'entreprise a été rachetée par un fonds d'investissement français, hein, je le précise. Vous avez quoi aujourd'hui? 350 produits dans la gamme Albert Ménès, c'est ça?
Oui, c'est une véritable collection de produits avec beaucoup de variétés, mais toujours une histoire derrière chacun des produits. C'est vrai qu'on
une
est allé
avec les fournisseurs notamment,
voilà,
avec ceux
une
qui
histoire
préparent.
D'ingrédients, une histoire de recettes, une histoire de tour de main. Voilà, il y a toujours quelque chose qui nous a séduit en fait et qui a donné lieu à la création de ce produit. Une histoire de relation aussi de longue durée avec les artisans qui les fabriquent.
Oui, ceux qui fabriquent vos petits beurres de Lorient, par exemple.
Tout à fait.
Gâteaux de Visan.
Ou les gâteaux de Visan. Donc, effectivement, des relations au travers de la France avec des gens qui nous ont accompagnés pendant parfois plus de 30 ans.
Que dit notre coach de l'aventure, Albert Ménès?
C'est fascinant. Comment vous faites pour donner autant d'importance à la tradition qu'à la modernité quand vous avancez?
C'est une bonne question. C'est vrai que c'est un équilibre important. La tradition, elle fait partie de nos gènes et elle apporte quelque chose d'incroyable en termes de savoir-faire. Typiquement, je pense à notre atelier de confiture qui est dans le sud de la France et on a encore des maîtres confituriers qui vont préparer le fruit en le confisant à l'ancienne.
Près de Nice, hein, c'est ça?
Tout à fait. Avant de le cuire dans des chaudrons de cuivre ouvert. Donc là, clairement, la tradition, elle nous apporte tout le savoir-faire qui va faire la qualité du produit. Mais la modernité, c'est important pour continuer à séduire le consommateur d'aujourd'hui. Et elle va se retrouver dans deux éléments principalement. Le premier, c'est dans la créativité des recettes. Typiquement, on a une recette historique qui est le confit de pétales de rose, qui est un produit vraiment incroyable, mais que tout le monde ne sait pas utiliser. Et cette année, on s'est inspiré des tendances culinaires, notamment d'un célèbre macaron que j'aime beaucoup, et on a créé une recette framboise rose. Et le fait d'être sur une orientation qui est beaucoup plus contemporaine, ça permet de remettre un produit traditionnel au goût du jour.
De le réinventer.
Comment
est-ce que vous faites face aux difficultés? Je sais qu'il y a peu de temps, hein, ce mois-ci, vous avez dû rappeler des produits à base d'origan. Est-ce que ce sont les aléas d'un groupe comme le vôtre, avec autant de produits, il y a parfois des problèmes, il faut y faire face?
Alors, je ne suis pas sûre que le mot groupe corresponde à notre taille d'entreprise parce qu'on fait 20 millions d'euros.
Non, mais c'est une marque connue.
Voilà, c'est une marque connue, mais derrière, c'est 70 hommes, donc oui. C'est une petite structure. Pour nous, ce qui est évident, c'est que la qualité, elle est au cœur de notre savoir-faire et que c'est un critère qui est essentiel avant tout autre critère. Le goût serait sans doute le deuxième. Dans ce contexte-là, on est sur des marchés qui sont extrêmement réglementés. Et donc, on fait tout notre possible, comme toutes les entreprises, pour que la qualité soit toujours au maximum. Mais parfois, pour des raisons d'approvisionnement ou de contrôle tout au long de la chaîne, il y a des choses qui ne se passent pas comme on souhaiterait. Donc, même si c'est une vigilance de tous les jours, il y a des cas de figure où on est effectivement obligé de faire cela. Ce qui est important, c'est d'être capable et structuré pour le faire de manière à gérer le problème aussi au mieux vis-à-vis des consommateurs.
L'avenir pour Albert Ménès, c'est quoi ? Vous aurez bientôt 100 ans ?
Tout à fait, bientôt 100 ans et on espère bien le fêter en très bonne forme avec notamment un très gros projet de développement à l'international. Quand on a repris l'entreprise il y a 2 ans et demi, l'international pesait moins de 5% de nos ventes, alors que pour une belle PME française très ancrée dans la gastronomie française, une bonne cible serait sans doute un tiers de nos ventes. Et donc, on a une démarche très active de mise en avant de nos gammes, à la fois dans des marchés européens où on n'était pas. On a ouvert le marché allemand l'année dernière, mais aussi, bien sûr, dans le marché asiatique qui est très intéressé par tout ce savoir-faire et ses produits d'exception, avec le démarrage l'année dernière à Hong Kong et cette année, Taïwan, Corée et la Chine, qui peut être un gros potentiel de développement pour l'entreprise.
C'est Albert Ménès, c'est l'entreprise qui va bien. Merci d'être venu nous en parler aujourd'hui.
Merci
sur
à vous
Europe
pour votre intérêt.
Il est 13h46.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Pourquoi jeter quand on peut réparer ? Pour vous aider à faire les bons gestes, la solution c'est PicPic, une association qui vous apprend ce qu'il faut faire. A tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 avec chaque jour, juste avant 14h, la solution du jour. Prenez de quoi noter, on va tous se mettre à réparer, Raphaël.
Ah oui, sèche-cheveux, cafetière, écran de téléphone, ne jetez pas. C'est la semaine des Repair Days organisée par Carglass, hein, l'entreprise, qui vont d'ailleurs se déplacer pendant plusieurs jours à travers la France. C'est Repair Days. Elisabeth, il y a une association, PicPic, qui sensibilise les citoyens sur les bonnes pratiques.
Mais oui, parce que l'objectif de cette association, c'est de nous sensibiliser tous, nous tous, à une consommation plus responsable, plus durable. Et donc, il faut arrêter de jeter. On peut tous trouver un objet dans un grenier ou au fond d'un tiroir que l'on n'utilise pas ou plus. Et plutôt que de le jeter, on ferait mieux d'aller le réparer. Et une association participe activement. Ça s'appelle PicPic Environnement. Bonjour Caméra Vésic.
Bonjour, bonjour à tous.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice de PicPic Environnement. Justement, en ce moment, vous sillonnez les ateliers qui vont avoir lieu d'ailleurs, qui vont continuer partout en France, à Lille, à Nantes, à Bordeaux, accompagné d'un réparateur qui nous aide, nous les citoyens, à réparer les petits objets du quotidien. Comment ça se passe concrètement ?
Tout à fait. Alors, on a tous chez nous plein d'objets cassés. Alors, des objets qui sont réparables ou non, mais on n'en sait rien. Et tant qu'on n'a pas de diagnostic, c'est un peu la pensée magique. On les stocke chez soi en se disant un jour, on aura une solution. Donc là, c'est vraiment l'opportunité de se déplacer pendant ces Repair Days, le 22, le 26 ou le 28 juin, dans toute la France.
Alors, c'est quoi réparer ? Donnez-nous des exemples, parce que parfois, effectivement, vous venez de le dire, on ne sait pas que ça peut être réparé. Quels sont ces objets ?
Alors, ça peut être aussi bien du gros électroménager, et très souvent sur lequel il y a une garantie, et on sait où l'emmener, etc. Le problème se pose sur les petits objets du quotidien. Ceux qui coûtent moins de 50 euros, ouais. Et pour lequel la réparation coûte pratiquement plus cher que l'achat. Donc les gens préfèrent s'en débarrasser ou les stocker.
Alors comment on les répare ? Parce qu'il paraît que vous réussissez à réparer plus de la moitié de ces petits objets.
Tout à fait, parce que les pannes sont très souvent assez minimes. Des fois, c'est un petit coup de fer à souder, un petit coup de nettoyage ou changer les piles et batteries. Mais comme les gens n'osent pas ou ne savent pas, voilà.
Et puis, il faut mieux les entretenir. Je crois que, par exemple, le grille-pain, il faut savoir aussi les situer, bien les situer dans
alors
la maison.
Alors, effectivement, il y a 3 étapes importantes. Bien acheter, bien entretenir et bien jeter. Bien acheter, essayer de choisir des objets qui sont de meilleure qualité plutôt que de se laisser avoir par des petits objets gadgets un peu qu'on achète pas cher. Généralement, quand c'est pas très cher, c'est pas d'une très, très grande qualité et ça a une durée de vie assez courte. Y a des labels pour ça et très souvent les étiquettes énergie par exemple, il faut essayer de s'y fier. Bien entretenir, on ne se rend pas compte, mais une bonne utilisation de l'objet, ça fait qu'il va durer plus longtemps. Exemple, le téléphone portable, si on le met à charger non-stop, la batterie va s'abîmer plus vite. Le sèche-cheveux qu'on colle trop près des cheveux et qui s'abîme, etc., etc.
Donc vous allez nous apprendre aussi les gestes pour qu'ils ne tombent pas en panne.
Pour limiter la panne, augmenter leur durée de vie. Donc déjà mieux l'acheter, mieux l'entretenir. Et après, en fin de vie, quand il sera quand il sera vraiment plus utilisable, le mettre dans la bonne poubelle, parce qu'on entend beaucoup parler de la problématique des déchets en ce moment, et les déchets électriques et électroniques sont une vraie plaie. Donc, il faut vraiment les mettre dans la bonne poubelle ou à la déchetterie.
Le coach Frédéric Mazella.
J'ai plein de questions. Alors, d'abord, bravo de pousser cette thématique très importante, parce que je trouve qu'on surconsomme, évidemment, et que on oublie que la meilleure solution, c'est quand même de réparer. C'est-à-dire, on répare et on réutilise, après on recycle et après éventuellement on composte pour certaines choses, mais il faut quand même penser que la meilleure utilisation, c'est de réutiliser. Alors, j'ai plusieurs questions. La première, c'est que très souvent pour réparer, il nous manque une petite pièce, une pièce détachée. Alors, je sais pas, je pense par exemple aux valises. Quand vous avez une roulette sur une valise qui est cassée, vous faites quoi? Donc, où est-ce qu'on peut trouver les pièces détachées? Attendez, j'ai plusieurs questions. Ensuite, la collecte de tous ces objets-là.
Il nous reste une petite minute, Frédéric, donc ça va être dur.
Mais après, comment ces objets-là sont collectés au quotidien? Je sais qu'il y a un service aujourd'hui qui grandit beaucoup, qui s'appelle Back Market en ligne et qui est superbe justement pour reconditionner tous les appareils électroniques. Vous parliez du désastre écologique de la surconsommation des appareils électroniques et Back Market s'y attaque
Superbe. Vous avez deux niveaux. Vous avez les niveaux des professionnels et c'est ce qu'on essaye de faire avec la tournée des Repair Days organisée par Carglass, c'est de faire connaître les artisans locaux. Les gens sous-estiment complètement les artisans locaux, le petit couturier, le petit artisan du coin. Le but, c'est de faire connaître justement les ressourceries, tous ces lieux très, très locaux. Et il y a effectivement les acteurs professionnels qu'on retrouve dans des réseaux comme par exemple le réseau AirCube, où on voit des gens comme Recommerce, etc., qui réparent.
Qu'on a reçu ici, sur Europe 1.
Soit des objets très ciblés comme les téléphones ou n'importe quel objet. Et sinon, dernière étape, plutôt le niveau bénévole, ce qui s'appelle les Repair Cafés, où là, c'est des gens, des particuliers, qui apprennent entre eux.
Merci à Pic Environnement d'être venu nous parler de ces Repair Days. On peut réparer, c'était la preuve avec vous. Merci à Frédéric qui avait encore beaucoup de questions mais qui va les poser hors antenne. Et nous on se dit à demain. Je voudrais juste vous signaler que la France des Solutions démarre le 13 juillet sur Europe 1 le samedi. Venez nous donner vos initiatives, celles qui nous rassemblent. On vous met évidemment l'adresse sur le site d'Europe1.fr.
Dans un instant sur Europe 1, c'est On de la Traconte. Christophe va vous parler du parcours d'un homme politique aujourd'hui, de son mariage à son élection comme député de Corrèze. Aujourd'hui, Christophe Ondelat vous raconte Jacques Chirac. À tout de suite.